Ami. Le podcast Guillaume Richardot, Charles.
Ami, le podcast de Tech Radio où on parle de nouvelles technologies. Bienvenue tout le monde. Alors, j'ai deux petites infos à vous donner. Tout d'abord, nous allons saluer Charles qui est avec nous. Salut mon cher Charles.
Salut Guillaume, comment ça va ?
Eh ben écoute, ça va bien, tu as ton panier dans la main, je vais te demander deux petites minutes de patience, tout d'abord parce que je voudrais signaler à nos auditeurs, grâce au talent de tous les contributeurs d'Ami le podcast, dont tu fais largement partie, eh bien nous avons fait plus de 90 épisodes, et oui, j'ai découvert ça cette semaine, en me baladant un peu dans les stats, on a dépassé les 90 épisodes, on s'approche du centième. Waouh, on est content quand même, c'est carrément cool. Donc ça, c'était le premier truc que je voulais dire. Donc je voulais dire merci beaucoup à toi, Charles. Merci beaucoup à Franck Lefebvre. Merci beaucoup à Bruno. Et merci beaucoup à Magali, celle nouvelle venue qui nous fait découvrir des jeunes pousses sur les nouvelles technologies qui a désormais rejoint la grande famille du podcast Amis. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et puis la deuxième, si vous ne le saviez pas, il y a une petite nouveauté qui vient d'arriver depuis pas longtemps et que je trouve absolument géniale. Pour tous ceux qui écoutent Amis le podcast sur l'appli d'Apple Podcast, eh bien désormais, le podcast est retranscrit en texte automatiquement grâce à de l'IA. Donc, ou alors tu peux écouter le podcast, ou alors tu peux lire le texte. Et j'ai écouté un de nos podcasts, Charles. Enfin, j'ai lu le texte d'un de nos podcasts. Mm-hmm. Et c'est carrément super bien fait.
D'accord.
Ça me fascine déjà. Ça me fascine parce que parfois on parle, on se coupe un peu la parole. Eh ben non, la retranscription est plutôt bien foutue. Donc, si vous êtes des adeptes de texte et que vous avez un iPhone, bah, écoutez le podcast, mais vous pouvez aussi le lire. Voilà, et je trouve ça carrément sympa. Voilà, c'était les deux petites choses que j'avais envie de dire avant de commencer. Et désormais, place à ton panier.
Merci Guillaume. Donc oui, je reviens cette semaine avec un panier jeux vidéo. Et je vais commencer tout de suite par un de tes chouchous français. Je sais que tu les aimes bien, Guillaume. C'est Shadow, les PC en ligne Shadow, ça te parle bien.
Mais absolument, tout à fait.
Et oui, bah, peut-être si, je ne sais pas si tu suis leurs actualités ou non. Mais voilà, cette entreprise française de cloud computing ou ordinateur en nuage situé
qui appartient à OVH maintenant.
Ah? Ah bah ça, tu vois,
il me semble bien, oui, ça a été, oh bah ça fait un bout de temps, ça a été racheté, c'est sous les ailes d'OVH.
D'accord, ok, bah je savais qu'ils stockaient leurs ordinateurs sur des serveurs OVH, mais je ne savais pas qu'ils se sont fait englober chez OVH.
Si, ils se sont fait englober par OVH.
D'accord. Et bien donc voilà, cette entreprise française de cloud computing, si tu es anglais, d'ordinateurs en nuage si tu es québécois ou d'ordinateurs distanciels si tu es français, a annoncé ce 11 avril l'ouverture de son store, donc de sa boutique en ligne de jeux, donc qu'ils appellent du coup le Shadow Game Store. Donc c'est bien évidemment pas les premiers à faire ça, hein, parce qu'on a chez la concurrence, bon il n'y a pas beaucoup de concurrence mais quand même, au niveau de services de cloud computing, on a Xbox Cloud Gaming et GeForce Now de Nvidia, qui offrent des services à peu près similaires, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez chez vous un terminal peu puissant, un ordinateur peu puissant, ou même, bah voilà, ça peut être comme un Chromecast ou un truc comme ça, un écran un peu bien, qui va recevoir des données d'image d'un vrai ordinateur assez puissant, qui lui est dans un serveur en éloigné. Donc en fait, voilà.
Il y avait Google qui avait monté un truc comme ça, qui s'est cassé la figure.
Bah, c'était Stadia.
Voilà, Stadia. Le célèbre Stadia qui n'a pas survécu.
Et mais oui, on en avait parlé, mais c'était pas très très bien. Et donc voilà, tous ces systèmes de cloud computing, cloud gaming, eh ben, ça se développe de plus en plus. Et voilà, c'était ça qu'on reprochait toi et moi à Stadia à l'époque, c'était le retard technique, parce qu'il y avait d'énormes latences, c'était pas possible de jouer à des jeux d'une manière fluide et efficace. Mais là voilà, l'offre de Shadow propose quand même des PC qui ont des performances vraiment très très bonnes, donc ça calcule les jeux d'une manière très puissante. Mais voilà, après il y a aussi des bons temps de latence avec leur serveur, etc., ce qui est toujours bien pour avoir une expérience fluide pure le jeu. Et donc ils ouvrent comme je l'ai dit, ils ont annoncé le 11 avril l'ouverture de leur Shadow Game Store. Donc en fait, voilà, non seulement ils vous proposent un abonnement, du coup, voilà, tu peux aller sur Shadow pour prendre ton abonnement pour avoir un PC gaming sur un serveur, histoire de ne pas l'avoir chez toi, mais si tu as du coup un abonnement chez eux, tu peux avoir accès à toute une catégorie, plein de jeux qu'ils te vendent à des tarifs globalement avantageux. Donc je trouve que le principe est très bien. Alors c'est avantageux sur certains jeux, pas sur tous les jeux non plus, parce que la concurrence au niveau des magasins de revente de clés de jeux vidéo, c'est la concurrence est assez féroce. Mais voilà, il y a des bonnes offres, notamment sur des jeux assez récents, par exemple pour Dragon's Dogma 2 qui est sorti il y a très peu de temps. Et il est sur le Shadow Game Store à 29,99€ au lieu de 41,99€ sur Instant Gaming. Bah, pour moi, j'ai là sur tous les comparatifs, je prends Instant Gaming comme référence parce que c'est le magasin de référence pour avoir des clés de jeu à prix bas, c'est là où la plupart des gens vont parce que c'est vraiment pas cher du tout. Donc voilà, ne serait-ce que sur ce jeu-là, Shadow Game Store, ils sont moins chers que Instant Gaming, ils sont un petit peu moins chers aussi sur Starfield, ils le proposent à 33,49€ au lieu de 39,89€ sur Instant Gaming, mais ils sont pas forcément moins chers sur tout. Bah, là par exemple, Red Dead Redemption 2 qu'ils vendent à 22,49€ au lieu de 16,66€ sur Instant Gaming. Donc voilà, mais au moins c'est je trouve le principe très bien, parce que voilà, si tu payes un abonnement chez Shadow pour avoir un PC dans Cloud, et bah c'est toujours bien d'avoir des réductions sur des jeux, parce que voilà, si tu prends un PC pour jouer, et bah c'est bien d'avoir de quoi jouer derrière. Donc leur atout marketing derrière ça, ils annoncent sur leur site, hein, c'est proposer des jeux couvrant une grande variété de typologies à des tarifs réduits, récolter les retours des utilisateurs qui nous permettront de chercher les jeux qu'ils souhaitent le plus et améliorer l'expérience globale du Game Store. Et avec le lancement du Game Store, Shadow réaffirme son engagement à offrir une valeur ajoutée à sa communauté, et cette nouvelle plateforme promet d'ouvrir de nouvelles possibilités et de renforcer l'expérience de jeu pour les utilisateurs de Shadow. Donc voilà, une très bonne nouvelle si vous avez déjà un compte Shadow, ou si vous hésitiez, peut-être que c'est ce qui vous fera pencher la balance, d'autant plus qu'ils ont une mécanique intéressante, puisque en fait ils vendent, c'est pas eux directement, c'est pas eux-mêmes, c'est pas Shadow directement qui vendent les clés des jeux. C'est en fait, il passe par un partenaire qui s'appelle Games Planet, qui est un site internet de revente de jeux, de clés de jeux. Et donc en fait, il faut du coup, pour bénéficier de leurs offres intéressantes là avec les prix que j'ai mentionnés avant, il faut donc avoir un abonnement chez Shadow qui te permet d'accéder à ces offres intéressantes. Mais en fait, réellement, tu les achètes chez leur partenaire qui s'appelle Games Planet. C'est réellement Games Planet qui te vend les clés. Ce qui fait que du coup, tu gardes en fait les clés chez Games Planet, si j'ai tout compris. Hein, tu peux garder les clés et en fait les réutiliser. Si tu ne veux plus utiliser de PC, d'ordinateur Shadow, si tu veux arrêter ton abonnement Shadow, tu gardes quand même les jeux. Et si tu décides de te monter ton propre PC ou d'acheter un vrai PC d'avoir chez toi, et ben pourras continuer de garder tes jeux. Donc c'est bien comme ça de passer par un partenaire, parce que voilà, sinon ce serait dommage si tu arrêtes ton abonnement Shadow, que tu n'as plus accès à ces jeux, ce serait dommage. Donc voilà, vous pouvez acheter vos jeux et les garder sous le coude pendant un long moment.
Oui, puis ce qui est vachement bien, je trouve, avec l'idée de Shadow, il faut le rappeler à nos auditeurs qui ne savaient pas trop ce que c'était, c'est qu'en fait tu achètes un PC qui est dans leur serveur. Mais c'est un vrai PC avec un vrai Windows, un vrai bureau, ouais, où tu fous ton vrai bordel. C'est vraiment ta machine. Et l'avantage, c'est que si moi j'ai un compte Shadow, je viens passer des vacances chez toi et je prends ton PC, je me connecte à mon interface Shadow et hop, je retrouve le bureau de mon PC. Et ça, je trouve ça carrément génial. Et j'en profite, puisque je disais au début de ton petit papier que ça appartenait à OVH désormais, pour te poser une colle. Mais je crois que je te l'ai déjà demandé, mais j'aime tellement la réponse, parce que je trouve ça tellement génial. Est-ce que tu te souviens de ce que veut dire OVH ?
Ah, j'ai l'impression que tu me l'as déjà demandé, mais comme ça, non, j'ai plus en tête OVH.
J'adore, je trouve ça tellement sympa. C'est tout con, en fait, c'est « on vous héberge ».
Ah d'accord, ok, ouais, d'accord. Ah bah non, tu vois,
Voilà,
maintenant
j'aime
que
bien.
tu me dis ça,
Voilà.
j'avais pas l'impression d'avoir déjà entendu cette anecdote, mais je m'en
Voilà.
souviendrai pour la prochaine fois.
Ah, j'aime bien. OVH, on vous héberge.
On vous
C'est tout
héberge.
bête, mais je trouve ça vraiment sympa.
Ouais, mais oui, mais pour revenir sur ce que tu disais sur le fait que Shadow c'est un PC avec Windows, et ben c'est un des gros avantages qu'ils ont par rapport à la concurrence de Xbox Cloud Gaming et GeForce Now de Nvidia, c'est que ces deux services-là, Cloud Gaming, Xbox Cloud Gaming et GeForce Now, c'est uniquement pour le jeu. C'est pas Windows, tu peux pas installer quoi que ce soit
Ouais,
sur
tandis que
ces
là, tu
trucs-là.
peux installer un
Donc là, tu
Word, un
peux, voilà, c'est
Excel,
ça.
tu peux
Et
travailler
notamment des jeux,
aussi, tu
voilà.
peux, voilà, tu peux t'en servir avec une tablette.
Tout à fait, tout à fait.
Bon,
Donc
ça sera un
c'est un
Windows
petit peu
piloté au
complet.
doigt,
Oui,
mais
bien
c'est
sûr.
vrai que c'est quand même, je trouve ça quand même plutôt sympa. Et bravo, bravo, petit Frenchie, enfin gros Frenchie, parce que OVH, c'est pas tout petit, mais moi
C'est
je
ça.
dis félicitations.
Eh bien, je suis bien d'accord. La deuxième info que j'ai à partager, ça concerne les dernières techniques crapuleuses que les éditeurs de jeux vidéo utilisent pour vous pousser à acheter des loot box et à contourner la loi. Bien sûr que tu te souviens ce que c'est des loot box, mon cher
Mais
Guillaume.
oui, absolument.
Et eh bien, sache que voilà, il y a des j'ai, voilà, l'info que j'ai à partager, ça concerne des dernières techniques utilisées dans le monde de l'escroquerie pour pousser les joueurs à acheter toujours plus de loot box. Et ça concerne notamment l'éditeur HoYoverse qui publie Genshin Impact en l'occurrence, notamment d'autres jeux, mais notamment Genshin Impact qui est très très populaire. Comment ils font pour contourner les lois qui sont en place, etc. Alors, faut d'abord tout ça, faut savoir. Tout d'abord, qu'il n'y a pas beaucoup de lois qui sont en place qui régulent les loot box. Il n'y a que en Belgique, c'est ceux qui sont à peu près les plus avancés dans le monde à ce niveau-là. Depuis 2018, en Belgique, les loot box sont interdites et les jeux vidéo qui en comportent sont techniquement illégaux, en fait, tout simplement. En France, il y a des discussions qui ont commencé après 2018, en 2019, et qui n'ont absolument abouti à rien. Voilà, donc en gros, globalement, sur la scène internationale, c'est que beaucoup de joueurs sont pas contents des loot box, ils trouvent que c'est des trous dans leur poche et dans leur porte-monnaie et que ça leur apporte pas grand-chose. Et puis voilà, il y a plein de parents qui se rebellent aussi contre ça parce que leurs enfants ont dépensé beaucoup trop d'argent dans des loot box, donc des paquets, des pochettes surprises dans des jeux vidéo qui donnent du contenu aléatoire. Donc on paye une certaine somme, mais on sait pas, on n'est pas garanti, on n'est pas certain d'avoir les éléments que l'on souhaite parce que c'est, il y a un côté aléatoire. Et donc voilà, il n'y a pas beaucoup de gouvernements qui font beaucoup la guerre à ces trucs-là, ou alors c'est très très paresseux. Et donc si ce n'est la Belgique, mais du coup même en Belgique, comment les éditeurs font pour entre guillemets à peu près contourner la loi? Et ben là, ce que fait HoYoverse, c'est qu'ils utilisent plusieurs techniques. Ils utilisent d'abord tout premièrement une technique de monnaie de transition. Donc ça, c'est quelque chose qui existe dans les jeux vidéo d'une manière très très répandue. C'est-à-dire que plutôt que d'aller sur le jeu et de payer directement avec ta carte bleue pour des loot box, tu vas aller sur le jeu et le jeu va te dire, oh, veux-tu acheter 30 000 pépites d'or dans le jeu pour 10 euros? Et donc tu payes tes 10 euros, tu as ensuite 30 000 pépites d'or dans le jeu et avec tes pépites d'or, bah, tu peux acheter des loot box et autres. Donc du coup, t'achètes pas techniquement, pas directement des loot box avec du vrai argent. Et ensuite, ce qu'ils utilisent aussi au Yover, c'est ce qui est absolument incroyable, c'est un système qu'ils appellent un système de pity. Donc pity, c'est la pitié en anglais. C'est un système qui en fait qui a pitié de toi si tu mince, ouvres trop, enfin pas trop, mais un grand nombre de loot box. C'est-à-dire que par exemple sur le jeu Genshin Impact, il y a plusieurs catégories de loot box, bien évidemment, mais si tu prends dans une catégorie donnée, tu as, on va dire, 0,6% de chance d'avoir un personnage très très puissant, le type de personnage le plus puissant possible. Tu as 0,6% de chance d'avoir ce type de ce personnage-là. Le jeu propose un système que si tu ouvres 80 loot box, il y a le système de chance change et à la 81e loot box, tu as 100% de chance d'obtenir le personnage très très rare que tu avais 0,6% de chance d'avoir avant. Donc en fait, ça rebat un peu les cartes parce que du coup, c'est plus de l'aléatoire. c'est plus de l'aléatoire tout simplement parce que tu sais que à la 81e lootbox que tu vas ouvrir, tu as 100% de chance.
Mais ça te pousse à ouvrir des lootbox.
Voilà, exactement. C'est pour ça que je parle de manière frauduleuse et crapuleuse de pousser les gens à acheter des lootbox. Donc ça, c'est les infos que j'avais trouvées un peu sur la toile. Mais en lisant un peu les commentaires des articles que j'ai trouvés, en grattant un peu plus, en fait, ce que j'ai appris, donc pareil, à prendre avec des pincettes aussi, parce que du coup, c'était pas des journalistes, mais plutôt des gens un peu côté forum qui en parlaient, c'est que a priori, la loi, en plus en Belgique, donc il y a une vraie loi qui a été passée, mais elle a été passée initialement, à l'époque, en 2018, pour 4 jeux, notamment Overwatch, Call of Duty, Fortnite et un autre jeu que j'ai pas réussi à trouver, mais voilà. Du coup, la loi initialement elle était passée pour ces jeux là et ça avait obligé immédiatement ces jeux là à modifier leur système. Donc, après le passage de cette loi, ces jeux là en l'occurrence ne vendaient plus de lootbox dans leur jeu. Mais a priori, actuellement, la loi n'est plus vraiment surveillée et en fait, c'est juste un coup de si tu es un éditeur et que tu veux vendre un jeu en Belgique. Et c'est toi qui décides si oui ou non tu mets des lootbox. On ne sait pas dans quelle mesure les jeux sont surveillés. Après, voilà, il faut accepter que si tu te fais choper, la loi prévoit jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et une amende pouvant aller jusqu'à 800 000 euros. Donc en fait, c'est littéralement un coup de. Comme si tu décides d'aller au-dessus des limites de vitesse sur l'autoroute, c'est tu sais pas si tu vas te faire choper, peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est à toi de décider si oui ou non. Donc il n'y a vraiment pas. Et on ne sait pas à quel point il y a des contrôles ou pas. Et que du coup, en fait, actuellement, tu peux avoir pas mal de jeux où tu pourrais en fait techniquement acheter des lootbox en Belgique.
Il faut être adepte du poker, en fait.
Voilà, c'est exactement ça. Dans les deux cas, aussi bien les éditeurs qui se disent « Ok, est-ce que je mets des lootbox ou pas ?» ou alors les joueurs qui disent « Ok, est-ce que je prends des lootbox ou pas ?»
D'accord. Bon, écoute, pas de lootbox pour moi, en tous les cas. Non, voilà, je prends pas de risque.
Je suis d'accord, pas de lootbox pour moi non plus. La dernière info que j'ai à partager, ça concerne un jeu qui s'appelle The Crew. Je sais plus si on en a déjà parlé.
Ça ne me dit rien, mais peut-être que oui. Tu sais, j'ai une mémoire parfois avec des petits trous. Donc
ça va revenir. Peut-être. C'est pas juste. Enfin, ça concerne le jeu, mais c'est pas un jeu qui va sortir. C'est plutôt un jeu qui a disparu, on va dire, puisque en fait, le studio lyonnais Ivory Tower, qui fait partie du groupe Ubisoft, avait.
Des gones, c'est bien.
Oui, bah oui. Ils avaient annoncé. En décembre 2023, que le jeu The Crew allait ne plus être disponible à partir du 31 mars 2024. Et donc voilà, au moment où nous tournons ce podcast, le 31 mars 2024, il est passé depuis pas longtemps. Donc ça y est, The Crew n'est plus disponible. Mais alors pourquoi je t'en parle ? Parce que ça soulève beaucoup, beaucoup de problèmes et beaucoup de questions. Voilà, donc pour refaire un petit historique sur The Crew, c'est un jeu de voiture en monde ouvert sorti en 2014. Le jeu avait été initialement assez mal reçu parce qu'il y avait beaucoup de problèmes techniques, beaucoup de bugs et peu de contenu. Mais voilà, il avait quand même créé un bel engouement parce qu'il était absolument unique dans son design. Il y avait plus de 10 000 km de route qui ont été reproduits. En fait, c'était la carte, le monde ouvert. C'était les États-Unis tout simplement réduit à une échelle 1/40. Donc en fait, tu pouvais prendre ta voiture et rouler de la côte est à la côte ouest pendant des heures et voilà. Donc il y avait beaucoup de potentiel, mais c'était la première itération de la licence. Et le studio s'était un peu cassé les dents sur son lancement, mais voilà, comme je disais, ils ont corrigé le tir par la suite parce qu'il y a deux extensions qui ont été sorties, et depuis il y a The Crew 2 qui est sorti, donc un autre jeu, et The Crew Motorfest qui lui a été très très bien reçu. Donc voilà, les itérations suivantes de cette lignée ont eu du succès, mais voilà, The Crew, premier du nom, était un jeu obligatoirement en ligne. C'est ce qui a sonné sa fin, puisque du coup, qui dit en ligne dit qu'il faut que l'éditeur ait des serveurs qui puissent héberger les parties, héberger les joueurs et avoir les données sur lesquelles les joueurs peuvent jouer. Donc c'était pas possible de jouer à The Crew en hors ligne, et voilà, donc Ivory Tower avait en décembre annoncé la fermeture des serveurs, et donc du coup c'est passé. Il faut savoir que voilà, les derniers mois, les dernières années, c'était environ, ça se comptait en quelques dizaines de personnes qui jouait au mieux, hein. On pouvait avoir des statistiques là-dessus, notamment sur Steam. Alors ça concerne pas toutes les plateformes, parce que voilà, il y a aussi PlayStation, Xbox, je sais plus, il y avait moyen qu'il soit sorti sur la Switch aussi. Mais sur PC,
donc
en
c'est
tout
un
cas,
jeu en stream, tu pouvais pas le télécharger sur ta machine.
Mais c'est ça le pire, c'est que en fait tu as quand même des données qui sont téléchargées et installées sur ta console, mais si tu veux jouer, tu es obligé d'être en ligne en fait. C'est ça. D'accord. Qui était un peu bizarre. Et du coup voilà, les derniers mois c'était quelques dizaines de personnes qui jouaient tout au plus. On a un dernier pic sur Steam le 25 mars à 187 joueurs enregistrés en simultané sur ce jeu. Le 25 mars c'était 6 jours avant la fermeture définitive. On s'est dit, on peut imaginer que c'est un groupe de passionnés qui s'est dit au dernier moment, allez les gars, une dernière fois on va retourner sur ce jeu. Mais voilà, donc ça pose des vraies questions de conservation en fait, parce que tout simplement, bah, des mêmes manières que des vieilles émissions de radio, des vieilles émissions de télé, on devrait pouvoir y accéder encore dans des dizaines, des centaines d'années, parce que voilà, encore une fois, conservation, bah, quid de The Crew, qui est un produit culturel comme un autre. Et ça, c'est l'aspect conservation. Pour la conservation, bah voilà, la solution, c'est tout ce qui est piratage et émulation. C'est malheureux à dire, mais on y revient. On en parle souvent. Enfin, j'en parle souvent sur Ami. Mais voilà, c'est une des solutions pour pérenniser ces jeux comme ça. Ça pose aussi un autre problème, c'est que toi en 2014 tu achètes ton jeu, donc tu achètes ta licence de The Crew.
Mais c'était là que j'allais revenir.
Qu'est-ce qui donne le droit à l'éditeur de te la révoquer tout simplement et de t'empêcher d'y jouer, quoi, si t'achètes.
Surtout qu'ils vont pas me rembourser, j'imagine.
Alors, anecdote assez marrant, c'est qu'il y a un mec qui, sachant que The Crew les serveurs de The Crew allaient être débranchés, il a demandé son remboursement sur PlayStation et il a eu un remboursement. Est-ce que c'est une erreur de PlayStation ou ils n'ont pas trop regardé, ils ont été un peu trop vite en besogne, ou alors est-ce que c'est le même cas pour tout le monde et ils n'auraient pas communiqué, ils n'auraient pas du coup annoncé au grand jour, les gars, si vous voulez vous faire rembourser ce jeu, n'hésitez pas à nous demander. C'est peut-être une possibilité, mais ils ne l'auraient pas annoncé au grand jour. Et bien, écoute, je ne sais pas, peut-être essayer, là c'est peut-être un peu tard, mais je ne sais pas. Mais enfin voilà, dans tous les cas, qu'est-ce qui donne le droit à un éditeur de révoquer la licence de quelqu'un? Voilà, si tu as acheté un album des Rolling Stones à l'époque et que tu l'as toujours, bah qu'est-ce qui, ils n'ont pas le droit de venir chez toi et de te le piquer, quoi. T'achètes une licence.
De toute façon, je les laisserai pas rentrer.
Tu laisserais pas rentrer les Rolling Stones?
Non, pas pour les Rolling Stones, oui. Mais pas qu'on vienne me piquer pas l'album.
Je comprends. Bon, si tout ce que je viens de vous dire, ça vous met en rogne, sachez qu'il existe un site internet. Vous cherchez sur Google stopkillinggames.com, c'est STOPKILLINGGAMES, stopkillinggames.com. C'est une initiative faite pour en fait gueuler tout simplement un peu contre la non-préservation, la non-conservation de tout ce qui est jeux vidéo. Tu vas sur ce jeu, sur ce site internet, ils t'expliquent un peu c'est quoi leur mission et t'as un bouton avec j'agis et ensuite tu cliques sur j'agis, tu choisis sur le pays dans lequel tu vis et en fonction dans le pays dans lequel tu vis, ils te proposent tout un tas de solutions à faire. Pour la France, tu peux, ils te disent toutes les étapes à suivre, ils te proposent plusieurs solutions, contacter un médiateur, contacter le FC que choisir, contacter la DGCCRF.
Ah ouais, carrément, c'est
voilà,
génial.
T'as plein de trucs, signer l'initiative citoyenne européenne, diffuser le mot sur les réseaux sociaux, t'as plein de choses. Donc si vous voulez y faire un tour, n'hésitez pas, parce que voilà, ça va être, je pense que c'est primordial de conserver le jeu vidéo tout autant que n'importe quel autre média.
C'est stopkillinggame.com, c'est ça.
Stopkillinggames.com avec un.
T'as vu, j'ai bien écouté, quand même.
Bravo, Guillaume.
Bon, dis donc, avant qu'on se quitte, je vais désormais faire un petit sondage à la fin des podcasts pour poser ma petite question du moment et avoir les avis des êtres humains qui nous écoutent. Mais d'abord, le tien, mon cher Charles. Je ne sais pas si tu as entendu ces derniers temps une petite musique. Alors, je ne sais pas si ça va être une mode, une réalité. Ou si on y arrivera un jour, moi je pense que oui, mais il y a plusieurs sociétés, il y a entre autres Elon Musk, il y a peut-être Apple et il y en a bien d'autres qui travaillent sur des robots qui seront des robots domestiques. Tu as peut-être vu Optimus qui a, qui a une tête de, d'être humain. Et il y en a d'autres, des projets comme ça, des espèces de majordomes qu'on aurait chez soi, avec évidemment des intelligences artificielles pour pouvoir leur parler, mais avec des bras et des jambes, parce qu'ils pourraient nous aider à la maison plus tard à faire leur passage peut-être, ou à vider le lave-vaisselle. Alors je voudrais savoir si toi, bon allez, on oublie le prix que ça va coûter, parce qu'au début ce sera cher, mais après ça baissera. Si toi, tu auras envie d'en avoir un chez toi.
Oh. Ah ouais, je sais pas, de but en blanc comme ça, c'est difficile à dire. C'est sûr que si j'avais le choix, je prendrais pas les premières générations, je dirais toujours non, mais au bout d'un moment, pourquoi pas, ouais, pourquoi pas.
Bon, bah moi je suis fan, j'espère ça, qu'un jour bien. J'en aurai un. Donc votre avis, chères auditrices et chers auditeurs, 01 76 21 18 10, et vous, est-ce que vous aimeriez avoir un petit robot comme ça qui vous aiderait, qui vous filerait des coups de main, ou tout simplement un espèce d'R2-D2 qui vous raconterait des conneries et qui vous lirez vos mails, vous projetterez sur le mur votre film du soir. Je ne sais pas, faisons dans la fiction, mais moi je pense réellement qu'on le verra, que dans une dizaine d'années, ça commencera à arriver dans les maisons comme sont arrivés les Google Home ou les Alexa. J'y crois vraiment, donc voilà, c'est ma question du jour, 01 76 21 18 10. Voilà, mon cher Charles, comme d'habitude, ce fut un immense plaisir, c'était la dernière, hein, j'ai bien compté. Hein.
Oui, la dernière fois.
Là, je suivais, je suivais. Hein. Donc, c'est toujours un immense plaisir de se retrouver dans ce podcast. Hein, je vous le rappelle, on a dépassé les 90 épisodes et tous les autres épisodes, les anciens, vous pouvez les retrouver dans votre appli de podcast si elle est bien faite comme celle de Google. Ou alors, si vous pouvez aller sur le site de Ocha aussi, qui est la plateforme par laquelle nous éditons ces podcasts. Et il y a nos archives. Voilà, vous savez tout. Mon cher Charles, encore merci et à la semaine prochaine.
Merci à toi, salut.
Ami, le podcast 01 76 21 18 10. Si vous voulez commenter l'infotech.